Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Ituri, la 17e épidémie d'Ebola s'accélère. 42 nouveaux cas et 24 décès signalés en 48 heures. Nord Kivu accalmie à Kasake et Lumbishi après 3 jours d'affrontement entre Wazalendo et AFC M23. Inondation à Kindu, Hugues Katembo, le superviseur du projet de réponse à la crise provoquée par les inondations fluviales dans la ville de Kindu, qui est l'invité de ce journal, appelle à la relocalisation de populations vivant dans les zones à risque. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. En Ituri, 42 nouveaux cas confirmés de la maladie à virus Ebola et 24 décès sont enregistrés dans les zones de santé de Bunia, Nizi et Rwampara en l'espace de 48 heures. Dans son dernier rapport épidémiologique publié samedi dernier à Bunia, le Centre d'opération d'urgence de santé publique dit s'inquiéter de la progression rapide de cette 17e épidémie en République démocratique du Congo. Marshal Kizabia Mungu pour plus de détails.
Au total, 43 nouveaux cas de la maladie à virus d'Ebola, dont 42 à Ituri et 1 au Nord Kivu, ont été enregistrés ces deux derniers jours. Les centres d'opération d'urgence des santé publique CUSP-RDC, dans son dernier rapport, parle d'un cumul de 1873 cas confirmés et 672 décès, soit un taux de létalité globale de 36% depuis la déclaration de cette 17e épidémie au pays le 15 mai dernier. Les centres d'opération d'urgence de la riposte contre Ebola indiquent que c'est pendant que 6 nouveaux patients ont été déclarés guéris et sortis d'hôpital le samedi dans la province de l'Ituri. Enfin, CUSP-RDC annonce l'expansion désormais de l'épidémie dans les provinces de la Tchopo et Otuélé, avec des cas confirmés venus probablement de Nyanya dans les territoires de Mambasa, d'Ituri, Bunia. Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Restons en Ituri, le relais communautaire joue un rôle essentiel dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Déployé dans les quartiers de Bunia, il sensibilise les ménages aux mesures de prévention, détecte les cas suspects et oriente les malades vers les structures de santé. Malgré leur engagement, ces volontaires font face à de nombreux obstacles, notamment la méfiance, les menaces et parfois des agressions de la part de certains habitants. Isaac Remoyope.
Dans l'aire de santé des Bigots, 3 relais communautaires sont affectés à chaque avenue. Chaque jour, ils parcourent les ménages pour sensibiliser la population aux mesures de prévention contre Ebola, identifier les personnes malades et signaler les cas suspects aux équipes de riposte. Selon les responsables, ce travail commence à produire des résultats avec un nombre croissant d'habitants qui acceptent volontairement les dépistages. Samuel Rema.
Actuellement, nous voyons maintenant la population commence à comprendre que la maladie existe. Il y a des avenues, il y a des gens qui ont même accepté d'aller se fait dépister volontairement.
Aussi des déplacés de Kigonz, situés également dans l'aire de santé des Bigots, les relais communautaires poursuivent le même travail de sensibilisation. Les déplacés eux-mêmes participent désormais à la mobilisation de leur communauté. Selon les responsables, cette implication a contribué à renforcer le respect des mesures de prévention et à réduire les décès liés à Ebola dans les sites. Samuel Rema.
Après qu'on ait formé une équipe de relais communautaires au sein des sites de Kigonz, eux-mêmes sont en train maintenant de sensibiliser le leur dans des langues locales. Même les gens des sites sont en train de nous appeler à quoi qu'on puisse venir les empiler.
Les relais communautaires estiment que leurs effectifs sont insuffisants pour couvrir tous les quartiers. Ils dénoncent également des actes de menaces, des insultes et parfois des agressions physiques de la part de certaines personnes qui refusent les activités de sensibilisation. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Santé toujours cette fois au sud Kivu. 52 cas de diarrhée aiguë, dont 11 décès ont été enregistrés entre le 23 juin et 7 juillet 2026 dans la zone de santé de Mulungu en territoire de Shabunda. Selon les autorités sanitaires, la majorité des patients présentent une déshydratation sévère, ce qui suscite une vive inquiétude dans cette zone déjà confrontée à d'importants défis de prise en charge médicale, notamment dans l'aire de santé de Lubila. Ronelyne Tibonera pour les détails.
Dans une alerte épidémiologique publiée la semaine dernière, le médecin-chef des zones, Dr Pacifique Pimbu-Ilonja, indique que ces cas ont été recensés entre la 26e et 27e semaine épidémiologique. 11 patients ont perdu la vie, soit un taux de létalité de 21,1%, jugé particulièrement élevé. Les statistiques révèlent que les personnes âgées de 18 à 50 ans sont les plus touchées. Toutefois, les cas des enfants de 1 à 5 ans sont aussi affectés. Selon lui, les premières investigations montrent que les populations concernées s'approvisionnent principalement en eau dans les rivières Lubila et Ulindi, ce qui pourrait favoriser la propagation de la maladie. Le médecin-chef des zones rappelle que l'aire de santé de Lubila est régulièrement confronté à des flambées des diarrhées aiguës pendant la saison sèche. Malgré cette récurrence, aucun appui extérieur n'a encore été mobilisé pour renforcer les activités de riposte. Face à cette urgence sanitaire, il préconise un renforcement de la surveillance épidémiologique, une investigation approfondie des facteurs de risque, une prise en charge rapide des malades et une intensification des campagnes de sensibilisation sur l'hygiène, le traitement de l'eau et l'assainissement du milieu. Il lance enfin un appel pressant aux partenaires techniques et financiers pour obtenir un appui afin de prévenir une aggravation de la situation et d'éviter de nouveaux décès.
Retour à Kinshasa où la saison sèche s'est désormais bien installée avec ses températures plus fraîches, ses vents et son importante présence de poussière. À Kimbondo, dans la commune de Mongafula, les habitants adaptent progressivement leurs habitudes à cette période de l'année. Pulls, vestes, chaussettes et parfois même masques de protection contre la poussière sont devenus un élément du quotidien pour de nombreux riverains. Au-delà du changement vestimentaire, cette saison amène également les populations à redoubler la vigilance pour préserver leur santé, notamment face aux maladies respiratoires et autres affections liées au froid. Comment les habitants vivent-ils cette période et quelles précautions prennent-ils au quotidien? Élément de réponse dans ce reportage de Gloriane Lepea.
À Kimbondo, un quartier réputé pour ses basses températures pendant la saison sèche, les habitants redoublent de précautions pour faire face au froid. Une mère de famille explique les dispositions qu'elle prend pour protéger ses enfants durant cette période.
Avec la saison sèche, ici à Mongafula, c'est pas facile. Hein. Comment moi je fais? Je ne lave pas les enfants tous les jours. Au moins, je prends les gants pour le débarbuer seulement dans la maison. Les jours qu'il y a le soleil pendant la journée, là, je peux leur laver. Et ils sont toujours couverts de pulls avec bonnet, parfois de chaussettes, de bas, pour couvrir contre le froid.
De son côté, Arlène, habitante de Kimbondo, évoque les changements qu'elle apporte à son habillement et ses déplacements pour faire face aux rigueurs de la saison sèche.
Pour la saison sèche, j'ai déjà eu comme habitude de pouvoir m'y préparer déjà bien avant. J'achète des pulls, des chaussettes pour moi et pour les enfants. J'ai l'habitude de pouvoir prendre la tisane si je dois sortir, me déplacer. Généralement ici, on prend des motos parce que notre route et le trafic est vraiment assez difficile. Il y a des embouteillages, donc il faudra avoir un cache-nez pour se protéger contre la poussière.
Une réalité saisonnière qui rappelle que le climat influence aussi les gestes les plus simples du quotidien.
Je le disais en titre, au Nord Kivu, une accalmie est observée ce lundi dans les localités de Kasake, en territoire de Masisi et de Lumbishi, dans celui de Kaélé. Ce, après 3 jours de combat ayant opposé les combattants Wazalendo aux rebelles de l'FCM23. Selon des sources locales, les deux localités seraient passées sous contrôle des Wazalendo, tandis que les habitants commencent progressivement à regagner leur village. Magloire Landou Mayemba pour les détails.
Le combat particulièrement intense dimanche à Lumbishi, en suivi de jours d'affrontements autour des Kasake près d'Ngungu. De sources locales rapportent que le combattant Wazalendo, dirigé par Noah Machano du groupe Maïma Ilamuka, se serait également déployé dans les villages voisins des Shangi, Katarandwa et Shoa, où la situation reste néanmoins tendue. La présence des Wazalendo est également signalée dans les villages des Shangi, Katarandwa et Shoa, autour des Kasake, où la situation reste volatile. Depuis plusieurs mois, les Wazalendo et l'FCM23 se disputent le contrôle de cette zone à cheval entre Kaléé et Masisi, les localités passant régulièrement d'un camp à l'autre. Cette instabilité a déjà poussé des centaines d'habitants à déplacer leurs familles après des destructions et des pillages de leurs biens, tandis que ceux qui restent font face à une précarité croissante.
Restons en Nord Kivu où la société civile de Kassindi-Loubiria, à 85 km de Beni, exprime sa vive inquiétude face à la montée de la criminalité dans cette commune rurale. Selon cette structure citoyenne, les incursions répétées des bandits armés dont les habitations contribuent à appauvrir davantage la population et à renforcer les sentiments d'insécurité des habitants, tout en invitant la population à signaler tout mouvement suspect dans la communauté. Elle appelle les services de sécurité à démanteler le réseau criminel actif dans les milieux et qui insécurise la population. Paul Zaidi, rapporteur de la société civile de Kassindi-Loubiria, est au téléphone de Marc Marofimbo.
Il s'observe une résurgence du banditisme dans plusieurs quartiers de Kassindi. Nous saisissons cette opportunité pour interpeller toutes les personnalités qui possèdent la mission régalienne de protéger la population et leurs biens, de s'activer et de ne pas seulement constater les dégâts pour venir mener des investigations autour de la nature du crime ou du banditisme commis dans le ménage de la commune de Kassindi, parce que ces banditismes est à la base de l'appauvrissement de plusieurs familles dans notre entité. C'est pour cette raison que nous demandons à ce que les patrouilles diurnes et nocturnes soient renforcées afin de procéder au démantèlement des réseaux des criminels et des bandits. Et nous appelons également la population à renforcer les systèmes de la vigilance à base communautaire. Ça signifie que la sécurité est une affaire qui concerne tout le monde. Nous ne devons pas nécessairement croiser les bras et observer les exploits qui seront fournis par les services de sécurité et de l'ordre.
Contacté à ce sujet, le bourgmestre de la commune de Kassindi rassure que des mesures sont déjà mises en œuvre afin de traquer les malfaiteurs et renforcer la protection des habitants. Les ingénieurs de l'entreprise ITEM SRL, sous-traitante de Safricas, dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, réclament les paiements de plus de 15 mois d'arriéré de salaire. Parmi eux, il y a ceux du Tanganyika, du Sud Kivu, du Maniema et de la Tchopo. Ils ont annoncé la suspension de leurs activités jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Dans une correspondance adressée à Safricas et parvenue ce lundi à Radio Kapi, ils appellent l'entreprise à trouver une solution rapide à cette situation. Plus de détails avec Paulin Munanga.
D'après ces ingénieurs, ils ont travaillé dans la construction des infrastructures dans le cadre du projet 145 territoires. Ce sont notamment des bâtiments administratifs, des centres de santé et des établissements scolaires. Dans la correspondance, ils constatent que plusieurs autres intervenants du projet, notamment les entrepreneurs, sont payés, mais leur situation reste inchangée. Ils décrivent ce qu'ils qualifient d'injustice et se décident de suspendre toutes leurs activités sur l'ensemble du projet Pôle Est jusqu'à la régularisation de leur situation. Emmanuel Masirika est le représentant de la synergie des ingénieurs.
Nous avons à peine plus de 15 mois impayés jusqu'à présent. Donc nous avons commencé juste au début du projet. C'était début 2024 jusqu'à 2026. Donc on a fait à peine 2 ans et demi dans les projets des PDSA 45 territoires. Et jusqu'à présent, le problème c'est au niveau des paiements parce qu'on a commencé très très bien avec Safricas, ITEM. Nous avons beaucoup de lettres que nous avons envoyé, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas de suite.
Nous avons tenté en vain d'entrer en contact avec les responsables de la société Safricas dans la province du Tanganyika. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
À Mbujimayi, avant d'aller plus loin, l'arrivée de Miguel Masai Sai, jeune Congolais de 25 ans parti de Goma pour rallier Rabat à vélo, a suscité une vague d'enthousiasme et d'interrogation parmi la jeunesse locale. Un périple baptisé Pedal for Peace, de coups de pédale pour la paix, qui vise à prôner l'amour, l'unité et la cohésion nationale. Pendant 48 heures passées dans la capitale diamantifère, son message d'amour, d'unité et de paix a résonné fortement dans le cœur lors de la rencontre avec ses pairs sur la grande place de Bonzola dans la commune de Kanchi. Esther Dalafina pour le reportage.
Face à ces jeunes cyclistes engagés, les jeunes de Mbujimayi ont exprimé admiration, espoir, mais aussi inquiétude. Admiratif de son courage, Bijou Binyang a dit voir en lui la preuve que la jeunesse congolaise peut porter des initiatives capables de rassembler.
La paix, c'est chacun de nous. C'est qu'on décide de faire, même à petite échelle. Le passage de Miguel a ravivé un désir, celui de participer à la construction d'un Congo uni.
Pour Timothée Moulumba, le passage de Miguel n'est pas qu'un événement, c'est un rappel que la paix s'est construite aussi par des engagements personnels et la volonté de croire en un Congo uni.
Nous, étant jeunes, ça nous donne courage, l'envie de chercher aussi par quels moyens s'impliquer aussi à rechercher la paix.
Pour Neville Kayembe, le courage de Miguel est une preuve que l'engagement n'a pas d'âge et que la paix peut se porter même sur deux roues.
On doit s'aimer, c'est vrai, la paix n'a pas d'âge. Ayons l'amour entre nous.
Entre admiration et inquiétude, les jeunes de Mbujimayi ont exprimé leur réalité. Le message de Miguel les touche, mais il révèle aussi leur frustration profonde.
Ici, nous les jeunes, on n'a pas tellement de l'espace pour nous exprimer.
Miguel Masaisai, sac au dos, vélo en main, a poursuivi sa route avec comme objectif atteindre la ville de Rabat au Maroc. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Un important convoi de l'armée malienne est tombé dimanche dans une embuscade tendue par les djihadistes affiliés à Al-Qaïda dans le centre du Mali. L'attaque s'est déroulée à environ 350 km de la capitale malienne. Plusieurs victimes et des camions détruits.
L'invité.
L'invité de ce jour s'appelle Hugues Katembo. Il est le superviseur du projet de réponse à la crise provoquée par les inondations fluviales dans la ville de Kindu. Face à la récurrence des inondations, il plaide pour la relocalisation des populations vivant dans les zones à risque. Hugues Katembo répond aux questions de Florence Kizalunga.
Hugues Katembo, bonjour.
Bonjour madame.
Vous clôturez votre projet de réponse aux inondations fluviales dans la ville de Kindu. Avez-vous atteint les objectifs?
Oui, les objectifs ont été atteints, vraiment, puisqu'on avait l'objectif d'assister 800 ménages en différents secteurs, à savoir la santé, la réduction des risques de catastrophes, les WASH, les CASH, mais aussi la sensibilisation sur les violences basées sur les genres, la sensibilisation des comportements à prendre avant, pendant et après les catastrophes. Et nous avons aussi assisté les gens en santé, donc la prise en charge gratuite des soins de santé, mais aussi la prise en charge des violences basées sur les genres, sur le plan psychosocial.
La réponse n'est pas tellement durable. Votre organisation veille toujours rentrer chaque année à Kindu pour assister ces gens, ou bien un jour vous comptez contribuer pour des réponses durables?
Oui, effectivement, le projet avait des aspects tout à fait humanitaires, donc à court terme, mais aussi il y avait des actions qui prennent en charge la continuité, à savoir notamment le pilier de réduction des risques de catastrophe qui s'est chargé de mettre en place les balises, c'est-à-dire la surveillance et la montée des eaux dans le cadre des systèmes d'alerte qui permettra à chaque fois que les eaux montent d'avertir les communautés pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, anticiper leur déplacement vers les zones sûres. Il y a aussi les aspects de sensibilisation qui sont venus dissiper un peu les lacunes liées notamment aux violences basées sur les genres, aux bonnes pratiques d'hygiène. Ça, ce sont des actions qui sont pérennes et qui, dans les jours à venir, pourront servir déjà les communautés pour éviter beaucoup de problèmes avec la montée des eaux.
Lors de la mise en œuvre de votre projet, quelle a été la grande difficulté?
La grande difficulté, c'était liée au fait que les statistiques d'avant, par rapport au ciblage, étaient supérieures aux chiffres dont nous avons assisté, à savoir, les statistiques étaient à 1117, maintenant qui devrait être prise en charge, mais le projet avec le financement des Start Ready, ce qui était disponible, c'était pour 800 ménages. Alors, nous avons été obligés d'être vraiment très rigoureux par rapport aux critères pour essayer un peu de trouver les gens qui sont vraiment dans les besoins et ce sont ceux-là qui ont eu l'assistance du projet. Mais alors, il y a nombreux qui sont restés, mais on ne pouvait pas faire autre chose, mais les pays qu'on a identifiés et qu'on a ciblés ont été satisfaits vraiment avec succès. Et des recommandations ont été bien sûr récoltées dans le cadre des feedbacks, mais en global, c'est une grande satisfaction des communautés qui bénéficièrent.
Durant les 2 mois d'exécution de ces projets, si on vous demandait de formuler une recommandation en faveur des populations vivant dans les zones inondables, quelle serait votre recommandation?
Ma recommandation serait vraiment d'identifier des zones sûres, puisque vraiment vivre dans les zones là où chaque année les eaux doivent monter, puis c'est prévu. prévisibles, ce sont des inondations fluviales. Donc c'est saisonnier. Chaque fois les gens perdent les biens, les maisons sont détruites ou endommagées. Ça serait mieux vraiment de changer de paradigme, de vivre dans l'eau et de chercher les endroits. Puisque chaque année, s'il faut assister les gens qui savent d'office que chaque année ils seront touchés par les eaux, c'est un peu difficile. Donc il faudrait que les gens puissent penser déjà à relocaliser vers les zones sûres, en fait qu'ils puissent, n'est-ce pas, préserver les moyens qu'ils ont.
Est-ce que vous partez avec l'idée de revenir encore une fois dans le maniement pour assister les autres victimes?
Oui, effectivement, il y a beaucoup de travaux à faire ici dans le cadre de prévention. Ça, c'était un projet d'urgence, mais la prévention serait de renforcer vraiment la connaissance et les bonnes pratiques, c'est-à-dire de capitaliser les acquis actuels du projet et de les pérenniser. Je pense que ça, c'est un travail permanent qui doit être là jusqu'à ce qu'on transforme les faiblesses en capacités. Les autorités se sont engagées à entrer dans cette démarche pour essayer un peu de rendre disponibles des endroits sûrs où les populations peuvent, n'est-ce pas, relocaliser et éviter d'être des sinistrés éternels pour chaque année, chaque année. En fait, ce qu'on a fait, c'est une partie. Donc, s'il y a d'autres bonnes volontés, d'autres partenaires, ils peuvent déjà nous compléter pour essayer un peu de résorber cette demande, ce besoin qui est pressant par rapport aux dommages causés par la montée des eaux.
Hugues Katembo, merci.
Je vous en prie, maman.
C'était donc notre invité Hugues Katembo qui s'entretenait avec Florence Kizalunga. Et c'est ce qui met fin à ce journal parlé de la mi-journée, préparé pour vous par Élisée Chikota Chivoita et Jean Gandou Kabongo. La mise en onde était assurée par Alain Goy. Ce journal est à suivre sur notre page TikTok et à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.